ce soir, nous devons essayer de voir ensemble le problème de l'activité religieuse et l'excroissance des passions religieuses. La dernière fois, on vous a montré ce qu'était la vertu de religion. N'oublions pas, et je crois que ceci est très important, de comprendre de plus en plus combien l'appétit religieux, je dis bien l'appétit religieux, c'est-à-dire cette orientation profonde de notre nature humaine vers le mystère de Dieu, cette orientation profonde de notre appétit naturel vers le Créateur, cet appétit fondamental est quelque chose de tout à fait premier, puisque c'est de fait l'esprit qui dépasse le point de vue de la matière. C'est par où notre âme spirituelle émerge de la matière. Quand il s'agit de l'appétit du concupiscible et de l'irascible, c'est l'âme liée à la matière, liée à notre corps. Tandis que lorsqu'il s'agit de cet appétit religieux, il s'agit proprement de notre âme spirituelle, émergeant de la matière et qui s'oriente vers sa source. C'est pour ça que cet appétit spirituel ne peut naître qu'à partir d'une certaine connaissance, que cette connaissance relève des traditions religieuses ou qu'elle relève proprement de la métaphysique. Cette connaissance ne peut naître qu'à partir de ces traditions religieuses ou de la connaissance métaphysique. C'est pour cela que si facilement, d'une certaine manière, cet appétit peut s'éteindre. C'est ce qu'on voit, ce qu'on constate quand on regarde les choses d'une façon purement sociologique. On voit que des pays qui ont été religieux peuvent très bien se matérialiser. Autrement dit, qu'il puisse y avoir de fait une espèce d'étouffement de ce que représente l'appétit spirituel dans ce qu'il a de plus radical et de plus fondamental. Tandis qu'on n'arrivera jamais à éteindre un appétit du concupiscible ou de l'irascible. Il n'y a pas moyen, ça. Les êtres humains resteront toujours avec des capacités de colère et des capacités de concupiscible par rapport au bien immédiat. Tandis que quand il s'agit de l'appétit spirituel religieux, on peut arriver à l'éteindre. Et ça, c'est très important de se le rappeler. On peut arriver à l'éteindre. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit justement de cette émergence profonde de l'âme spirituelle par rapport au corps sensible. Et parce qu'il s'agit justement de cette émergence de l'âme spirituelle par rapport au corps sensible, on comprend comment il peut y avoir une espèce d'étouffement. Vous n'entendez pas? Vous n'avez qu'à me dire. Je demande toujours à ceux qui sont dans le fond de se lever s'ils n'entendent pas assez, hein, parce que pas la peine de crier trop fort comme si on était dans une cathédrale. Hein. Une cathédrale sans micro. Aujourd'hui, on n'a plus besoin. Mais du temps passé, on était obligé de développer pas mal ses poumons pour pouvoir se faire entendre loin. Maintenant, plus d'efforts. Hein? Alors, c'est très bien. Alors, il faut comprendre que cet appétit religieux, spirituel, peut être éteint. Et par le fait même, provoquer ce qu'un psychanalyste autrichien aujourd'hui souligne, que refouler l'appétit religieux provoque un inconscient le plus profond qu'il soit. Je suis heureux qu'un psychanalyste dise ça. Au point de vue philosophique, je l'avais déjà dit plus d'une fois, mais c'est intéressant de voir qu'un psychanalyste constate. Au point de vue religieux, au point de vue philosophique, c'est net. Si l'appétit religieux est cet appétit de l'âme spirituelle, on comprend très bien que le refoulement possible de cet appétit spirituel provoque les plus grands ennuis, le refoulement le plus fort qui soit, et donc soit source des plus grandes angoisses. Un monde qui oublie l'adoration, un monde qui oublie le point de vue religieux, est un monde qui nécessairement se conduit vers l'angoisse. Ça ne peut pas être autrement. Parce qu'il faudrait justement que la nature humaine soit autre que ce qu'elle est. Autrement dit, il faudrait supprimer l'esprit. Et l'esprit existe, même si les hommes n'en veulent pas. Il existe. Notre âme spirituelle a été créée par Dieu. Et donc, il y a un appétit spirituel qui existe naturellement. Et cet appétit spirituel demande de remonter à sa source. Et donc, de s'exercer librement dans l'adoration. De s'exercer librement dans la louange. De s'exercer librement dans une certaine liturgie d'action de grâce et de reconnaissance de tous les bienfaits du Créateur. Si on supprime cela, nécessairement on provoque un refoulement, et le refoulement le plus profond qui soit. Et tous les refoulements, vous savez bien, conduisent nécessairement à une certaine angoisse. Alors, il faut ne pas oublier cela. Je voudrais ce soir, avec vous, traiter un sujet qui serait très intéressant à traiter d'une manière historique. Je ne vais le traiter que d'une façon philosophique. Je veux quand même, au point de départ, souligner l'importance historique de ce sujet. C'est-à-dire, essayer de comprendre comment il y a dans les passions dites religieuses les plus grandes tensions et les plus grandes oppositions. Évoquer les guerres religieuses. Les guerres religieuses proviennent d'excroissance de l'appétit religieux. Et je dis bien des excroissances. Nous essaierons de comprendre comment se font ces excroissances. Les guerres religieuses sont de fait quelque chose qui s'oppose le plus à ce que représente normalement l'adoration et la remise complète de tout ce que nous sommes entre les mains de Dieu. Une âme religieuse devrait être abandonnée, et radicalement abandonnée, par le point de vue de l'adoration, par le point de vue de l'amour à l'égard de Dieu. Et donc elle devrait avoir un amour et un respect à l'égard de tous les êtres humains. Comment se fait-il que nous voyons des âmes religieuses qui deviennent d'une intransigeance effrayante et qui rejettent ceux qui n'ont pas les mêmes opinions? Autrement dit, comment l'attitude religieuse peut engendrer ce qu'on appelle aujourd'hui des sectes, de la naissance des sectes religieuses? Il n'y a rien de plus terrible que les sectes religieuses. Vous voyez la secte Moon. Aujourd'hui, je prends celle-là parce qu'on la connaît tous et que je la connais un peu. Puisque vous savez bien, quand le journal est paru, je ne savais pas, on me l'a dit, mais j'avais ma photographie dans le premier numéro du journal Moon. Et alors des amis m'ont dit, comment se fait-il que vous êtes un de ceux qui veulent propager? J'ai reçu un coup de téléphone à ce moment-là à Fribourg de celui qui était chargé de cela et qui voulait à tout prix me voir. Et pendant une heure, il m'a supplié de collaborer à son journal en me disant « Nous n'avons rien contre l'Église catholique, nous n'avons rien contre la foi chrétienne, nous voulons lutter contre le marxisme. Alors soyez avec nous. J'ai assisté à une de vos conférences. » C'était très joli du reste. C'est comme ça qu'il a pris ma photographie et que ça a été parfait. « J'ai assisté à une de vos conférences. Je vous ai pris en photographie. J'ai mis une de vos phrases en dessous. Il nous faut des hommes comme cela. » Alors j'ai dit quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, des hommes qui croient. Et pendant une heure, on a discuté. Cet homme avait été passé par Châteauneuf. Il ne m'a pas dit que sa vocation provenait de Marthe, mais c'était tout proche. Alors quand même, je lui dis que c'était gros. Alors il m'a dit, non, c'est pas tout à fait ça que je vous dis. J'étais à Châteauneuf, j'ai fait une retraite, et puis à la fin, je me suis décidé, en réfléchissant, à donner toute ma vie à une cause importante qui en vaut la peine. Et je crois que la secte Moon vaut la peine, parce que le christianisme manque un peu de verdeur, un peu de force. Ils sont mous. Alors il faut des gens qui soient conquérants. Et nous avons besoin de gens conquérants. Autrement, notre monde va être entièrement marxisé. Et c'était son point de vue. Alors évidemment, au terme, je lui ai dit que je ne pouvais pas. Il me faisait des offres intéressantes, vous savez, c'était très intéressant. Je ne serais pas ici ce soir si j'avais suivi ça, parce que c'était très très intéressant, parce qu'il faisait des possibilités étonnantes. J'ai jamais eu d'offres aussi extraordinaires dans ma vie, déjà. Alors, je ne dis pas que c'est la tentation du désert de transformer les pierres en pain, mais c'était quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors évidemment, c'était l'autre côté, vous comprenez ? Une mystique qui est si intéressante n'est plus une mystique. Ça tombe dans autre chose. Mais voyez ce phénomène que je crois très important à saisir. Comment se fait-il que l'appétit religieux qui est spirituel peut se contaminer en secte et peut se contaminer dans des violences extrêmes? Nous en avons des exemples actuellement. Certaines sectes à l'intérieur des musulmans peuvent devenir un fanatisme effrayant. Et nous avons donc là, à l'intérieur d'une attitude religieuse qui ne demande pas ça, je sais très bien qu'il peut y avoir là certaines choses qui seraient intéressantes à étudier, le lien entre l'attitude religieuse et l'aspect politique. Est-ce que ce n'est pas déjà une secte? Ça qui serait intéressant à conclure. On en touchera peut-être un petit mot au terme, parce que c'est très important. Est-ce que l'attitude religieuse, par définition, n'est-elle pas au-delà de tout temporel? Et que dès qu'elle s'allie à un point de vue politique, elle n'est plus une attitude religieuse en toute sa pureté. Alors elle devient une secte. Une secte, qu'est-ce que c'est? Parce qu'au fond, je crois que c'est très important. C'est ça l'excroissance de l'appétit religieux. C'est devenir une secte. C'est très difficile de définir ce que c'est qu'une secte. On voit bien la multitude des sectes. Mais qu'est-ce que c'est qu'une secte? Qu'est-ce qui définit une secte à la différence d'un appétit religieux? Dès que vous avez un tout petit peu d'espérance, de foi, d'amour, et que vous entraînez derrière vous des jeunes, on vous dira c'est une secte. Tout simplement parce que vous êtes vivant, parce que vous croyez. C'est pas ça la secte. Jésus, c'est pas une secte. Je sais très bien que dans certaines perspectives judaïques, on dira « vous faites partie d'une secte chrétienne ». Ça m'a été déjà dit. C'est pour ça que je peux le dire. Vous faites partie d'une secte, la secte chrétienne. Par rapport au vieux tronc judaïque, le christianisme peut paraître comme une secte. Et j'ai dit non, ce n'est pas une secte. Et il a dit pourquoi ? Parce que dans le christianisme, l'appétit religieux demeure pur, limpide. Nous n'avons pas un messianisme temporaire. Est-ce que la secte, ce n'est pas justement le fait de se servir de cet appétit spirituel, le plus spirituel qui soit, l'appétit religieux, rejoindre la source, adorer celui qui est notre Créateur, se remettre entre les mains du Père. Donc c'est quelque chose de vraiment purement spirituel. Et de faire que ce quelque chose de vraiment spirituel se lie à un désir, une espérance d'une réussite temporaire. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait le point de vue de la secte ? C'est qu'un appétit spirituel se replie sur lui-même. Et se repliant sur lui-même, n'a plus ce côté spirituel et devient quelque chose de purement temporel. Je prends cet exemple-là, il faudrait y réfléchir, vous voyez, c'est un des problèmes que je crois très important au point de vue philosophique aujourd'hui, au point de vue philosophie religieuse. Hein. Au point de vue philosophie religieuse, c'est très important de distinguer ce qu'il y a d'authentique dans une orientation proprement religieuse. Il y a un aspect proprement sec. Avoir une ardeur au point de vue religieux, une ardeur d'amour, une conviction profonde de faire que toute notre vie est orientée vers l'attitude religieuse. Donc être un religieux, si vous voulez, hein, tout simplement. Faire que toute notre vie est prise par cette attitude religieuse. Ce n'est pas une secte. Sauf si on oriente cette force religieuse vers un but terrestre, un but temporel, un bien-être humain, une réussite, une gloire, un triomphe, une domination, ou l'argent, en dernier lieu. C'est la dernière des sectes, ça ne s'avoue jamais. Mais c'est la dernière des sectes, c'est peut-être celle qui anime toutes les autres, hein, parce que ça se cache. Mais c'est un but temporel. Voyez, on aurait par exemple, hein, prenons quelques exemples, parce que c'est intéressant au point de vue historique, hein, j'aurais aimé pouvoir le pousser un peu plus, parce que ça me semble tellement important. Le quiétisme et Port-Royal. Je prends à l'intérieur de l'Église catholique, avant. Il faut d'abord se frapper la faute soi-même, hein, puis après on regardera les autres. Alors, le quiétisme et Port-Royal, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est une déviation du point de vue proprement religieux ? Un désir d'une certaine domination avec un certain stoïcisme religieux. Le stoïcisme religieux poussé à l'extrême, hein, c'est plus l'attitude religieuse. Arriver à se dominer tellement. Vous savez, dans Port-Royal, il y a eu des choses affolantes. Hein. Quand on lit un peu l'histoire de Port-Royal, on a un peu froid dans le dos, surtout du côté des religieuses. Hein, parce que c'est toujours comme ça, les femmes sont toujours beaucoup plus fanatiques que les hommes, hein, on le sait. Parce qu'elles sont plus religieuses. Alors, elles sont plus religieuses, elles sont plus naturellement religieuses que les hommes. Elles ont un appétit spirituel plus grand. Alors, quand ça se corrompt, c'est pire que tout. C'est évident. Du côté des hommes, ils ont un peu plus de mal à le manifester. Et le quiétisme, c'est tout à fait différent. C'est un repliement. On essaiera de le voir. Parce que c'est deux choses tout à fait différentes. Totalement différentes. On aurait... dans l'Antiquité, alors constamment, dans l'histoire des religions. Les cultes religieux particuliers de Dionysios. C'est qu'au fond, quand même, des aspects qui me semblent toucher l'aspect de secte. Du côté protestant, est-ce qu'on n'aurait pas, du côté de Calvin, à la fin de sa vie, Calvin à Genève, cette volonté de dominer? Et du côté de Luther, cette espèce de scrupule qui le ronge constamment. Il y a un livre qui serait très intéressant à lire à propos des sectes, je vous le signale. Olivier de Braconi, Une secte au-dessus de tout soupçon, édité dans une bonne maison, les éditions du Cerf, 1975. Je ne suis pas payé pour ça, mais je vous le dis quand même. Alors c'est un livre intéressant, très intéressant, parce qu'il montre justement ce que représente cette secte, une secte actuelle, comment il est passé par différents aspects. Alors c'est intéressant de voir comment de fait une secte peut naître. C'est sûr que quand vous regardez l'histoire du christianisme, l'histoire du protestantisme, l'histoire de l'orthodoxie, quand vous regardez l'histoire de l'islam, quand vous regardez l'histoire du judaïsme, partout vous trouvez ce phénomène particulier à l'intérieur de choses très belles et très grandes, une espèce de caricature, les sectes. Parce que je crois que les sectes sont des caricatures de l'attitude religieuse. Alors, essayons maintenant d'entrer un tout petit peu dans ces deux grandes déviations, parce que je crois qu'il y a deux grandes déviations de cet appétit religieux. Ceci, c'est pour vous mettre, simplement pour vous montrer que c'est un grand sujet, très important et très actuel. Alors je vais simplement essayer, au plan philosophique, de toucher à deux aspects qui me semblent très importants. Comment naît le fanatisme religieux? Et comment naît le scrupule religieux? Ça vous semble curieux de prendre ces deux aspects, mais je crois que ce sont les deux aspects qui nous font comprendre les deux grandes excroissances de l'appétit religieux. Et vous allez tout de suite comprendre, les excroissances de l'appétit religieux ne peuvent provenir que de l'imaginaire lié à nos passions. Eh bien, l'appétit religieux qui reste souterrain, qui reste fondamental, mais très caché, c'est pour ça qu'il peut dévier. Comme il peut dévier, il dévie par l'imaginaire. C'est l'imaginaire qui fait dévier l'appétit religieux. Et cet appétit religieux déviant avec l'imaginaire va s'allier à l'irascible et vous avez le fanatisme. Il va s'allier au concupiscible et vous avez le scrupule. Le scrupule religieux qui mène à des angoisses. C'est ça que je veux souligner. Hein. Le scrupule, pas le scrupule tout simplement... Hein. Bon petit scrupule, hein, pas grand-chose, mais le scrupule poussé à l'extrême, qui détruit l'homme. C'est terrible de voir un homme scrupuleux. L'angoisse scrupuleuse qui provient d'une attitude religieuse, qui n'est pas n'importe quelle angoisse. Il y a des angoisses religieuses qui vont plus loin que toutes les autres angoisses. Et cette angoisse religieuse est presque toujours liée au scrupule. Et qui fait qu'il y a une destruction à ce moment-là, une annihilation. Alors, vous voyez, d'un côté, on veut annihiler l'autre, et de l'autre côté, on s'annihile soi-même. Et c'est en ce sens-là, je crois, qu'on peut dire que lorsque cet appétit religieux n'est pas rectifié par la vertu de religion dont on vous a parlé la dernière fois, quand cet appétit religieux n'est pas rectifié par la vertu de religion, il risque toujours d'y avoir des excroissances. Quand cet appétit religieux n'est pas assumé par une doctrine, très dangereux quand il n'y a plus de doctrine. Quand cet appétit religieux n'est plus assumé par une doctrine, des traditions religieuses qui sont correctes, qui sont vraies, profondes, une métaphysique qui purifie les traditions religieuses et qui donne une vision nette et précise de ce que doit être un appétit religieux ou la foi. La foi, pour un chrétien, nous aurons l'occasion de le dire, la foi pour un chrétien vient purifier les traditions religieuses. Notre foi rectifie ce qu'il peut y avoir en nous d'appétit religieux. Ça nous fait passer des dévotions à une attitude de contemplation. Alors vous savez bien, il y a des dévotions qui peuvent venir, qui peuvent très bien s'allier avec un scrupule effrayant. Et il peut y avoir des dévotions qui peuvent s'allier avec un fanatisme. Des gens dévots. Et alors, ça peut tomber dans un fanatisme. Alors je crois que ce sont les deux grandes caricatures de l'appétit religieux. Le fanatisme religieux et le scrupule religieux. Alors essayons d'entrer un peu dans ces deux grandes perspectives. Le fanatisme religieux, sous toutes ses formes, je crois qu'il est le même, qu'il s'agisse de l'Église chrétienne, de l'Église protestante, de l'islam, du judaïsme, il est toujours le même, le fanatisme religieux. C'est très curieux, parce qu'à partir du fanatisme religieux, ce n'est plus le contenu doctrinal qui compte. C'est uniquement l'autre qui n'a pas les mêmes opinions que moi. C'est la seule chose qui compte. Un homme fanatique, c'est comme ça. Au fond, ça lui est bien égal, la recherche de la vérité. On n'est jamais fanatique quand on recherche la vérité. Jamais. Et c'est même le signe le plus important de lutte contre tous les fanatiques. C'est la recherche de la vérité. Parce que la recherche de la vérité vous ouvre. On sait très bien qu'on ne possède jamais la vérité et qu'on doit la chercher toujours plus. Tandis que quand il n'y a plus de recherche de vérité, alors à ce moment-là, on considère que l'opinion qu'on a, c'est ce qu'il y a de plus important. Et on rejette l'opinion des autres. Et donc dans le fanatisme religieux, il y a un rejet complet de tout ce que les autres peuvent penser. S'ils pensent quelque chose qui n'est pas semblable à moi-même. La seule chose qu'on accepte, c'est sa propre opinion religieuse. C'est pour ça que le fanatisme religieux implique nécessairement un repliement sur l'affectivité religieuse. Un repliement sur l'affectivité religieuse qui fait qu'à ce moment-là, on n'a plus l'orientation vers quelque chose de transcendant. L'appétit religieux nous fait atteindre une réalité qui nous dépasse, puisqu'il nous fait atteindre Dieu. Puisqu'il nous fait atteindre le Créateur. Alors nous faisons atteindre Dieu et le Créateur, il nous fait atteindre quelque chose qui nous dépasse complètement, quelque chose qui va infiniment plus loin. Tandis que dès qu'il y a ce repliement sur soi, sur notre affectivité, vous voyez, on aime plus l'affectivité du sentiment religieux que de l'orientation profonde de l'appétit religieux vers le transcendant. On a un désir plus grand de ressentir. Vous voyez, c'est une espèce de psychologie qui domine à ce moment-là. Le sentiment religieux qu'on a, cette espèce de frénésie qu'on peut avoir, et qu'on se laisse griser par cela, et on veut entretenir cela. On veut entretenir ce sentiment religieux qu'on a d'être relié à quelqu'un qui nous dépasse. Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? C'est une phrase magnifique, cela. Et elle peut devenir le grand slogan. Dieu est avec nous. Je suis un homme religieux. Je suis relié à Dieu. Je suis donc relié à Dieu d'une façon telle que tous ceux qui sont contre moi sont nécessairement contre Dieu. Au cœur de tout fanatisme religieux, il y a cet immanentisme poussé à l'extrême qui fait que je m'identifie avec Dieu. Il y a une espèce d'identification de l'âme religieuse avec Dieu, profondément. Par le fait même, je m'identifie avec la toute-puissance de Dieu, je m'identifie avec la lumière de Dieu et la vérité. Tout ce que je peux dire est vérité. Tout ce que je peux faire, c'est l'action de Dieu. Cet immanentisme profond, alors on ne le déclare pas, hein. On ne le dira pas. Quoi, si on les pousse jusqu'au bout, ils le diront. Ils diront ça, qu'ils s'identifient avec Dieu et que par le fait même, si vous les contrez, vous vous mettez dans une position d'opposition vis-à-vis de Dieu. Donc, fondamentalement, on retrouvera cette position philosophique qu'on appelle l'ontologisme religieux. Dans tout fanatisme religieux, on retrouve un ontologisme. L'ontologisme, vous savez ce que c'est comme position philosophique. C'est une position philosophique extrêmement importante parce que, de fait, elle a eu beaucoup d'adeptes et elle continue encore, c'est ce qu'il y a de meilleur. Hein. L'ontologisme, c'est découvrir Dieu dans l'immanence. C'est que la connaissance de Dieu est première par rapport à ma propre connaissance. Le premier ontologiste, dans toute sa force, ça a été Malebranche, qui consiste à dire « je vois Dieu, et en voyant Dieu, je me vois ». Alors vous voyez, c'est l'immanentisme. Parce qu'en réalité, quand vous dites que vous voyez Dieu, vous ne voyez pas Dieu. Donc c'est vous, tout simplement. Hein. Il faut appeler les choses par leur nom. Et si je vois Dieu, je me vois. Mais en réalité, c'est vous-même qui vous regardez. Parce que Dieu, je ne le vois pas. Naturellement, je n'ai pas d'expérience de la lumière de Dieu. Et la lumière que j'ai, c'est une lumière que j'ai à partir de ma recherche et dans ma recherche, mais je n'ai pas ce contact immédiat et direct avec Dieu. De sorte que je crois qu'on peut dire que ce fanatisme religieux, ce repliement sur le sentiment affectif religieux, c'est bien cela. Je regarde plus la conscience religieuse que j'ai, vous voyez, le primat de la conscience, primat du sentiment religieux. Je regarde plus la conscience religieuse qui m'anime que le contenu de l'appétit religieux. Alors à ce moment-là, me repliant sur moi-même, je peux dire que je suis tellement lié à Dieu que tout ce qui est contre moi est contre Dieu. Il n'y a que Jésus qui peut dire ça. Celui qui est contre moi, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Jésus peut le dire ça. Parce que lui est vraiment Dieu. Mais nous ne sommes pas Dieu. Vous ne pouvez pas dire tous ceux qui sont contre moi, tous ceux qui sont contre moi sont contre Dieu. Tous ceux qui ne sont pas avec moi sont contre Dieu. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez jamais dire ça. Parce que vous avez votre point de vue limité, que voulez-vous, chacun d'entre nous. Et donc nous devons respecter l'attitude religieuse de l'autre. Et cette attitude religieuse, nous pouvons dire, ah, ce qu'il dit est faux, ce qu'il dit n'est pas tout à fait, il ne correspond pas, il me semble bien à ce que dit l'Évangile, ah, très bien, et vous pourrez l'éclairer. Mais vous ne pouvez pas dire d'emblée que parce qu'il est en opposition vis-à-vis de vous, vous pouvez dire par rapport à l'Évangile. Il n'est pas dans le sens de l'Évangile, c'est différent. Parce que vous avez un critère qui est extrinsèque à vous. Et vous n'êtes plus dans l'immanentisme à ce moment-là. Et vous le dites ça au nom de la foi. Et vous ne dites pas au niveau proprement religieux. Si je me place au niveau proprement religieux au point de vue philosophique, je suis bien obligé de reconnaître que mon attitude religieuse, qui cherche à être le plus proche possible de Dieu, cette attitude religieuse doit respecter l'attitude religieuse des autres. C'est inscrit profondément dans cet appétit religieux. Pourquoi ? Parce que cet appétit religieux me relie à Dieu dans l'adoration. Et parce que ça me relie à Dieu dans l'adoration, ça me fait comprendre que je suis tout entier relatif à Dieu. Du côté affectif, du côté amour, que Dieu doit passer devant. Et donc ce n'est pas moi qui discerne le bien et le mal. C'est Dieu seul qui discerne le bien et le mal. Et moi je me soumets à lui. Je ne peux pas discerner d'une façon absolue par l'appétit religieux, par ce sens religieux que j'ai de me relier à Dieu, par l'adoration. Je ne peux pas moi-même m'opposer. Je peux simplement dire, il n'a pas la même manière d'adorer que moi. Il n'adore pas de la même manière. Il n'est pas relié à Dieu de la même manière. Mais je respecte. Que ce n'est pas moi qui peut être juge de l'autre. L'attitude fondamentale religieuse m'empêche de juger mon voisin, puisque je sais que l'attitude religieuse est avant tout intérieure, qu'elle est ce qu'il y a de plus intérieur en moi, et que la manière dont je l'exprime à l'extérieur, c'est relatif, c'est secondaire. Ça dépend d'une quantité de choses secondaires. Et donc je ne peux pas, par l'attitude extérieure, juger l'autre. Tandis que vous voyez, dans ce fanatisme, on bloque l'attitude intérieure et l'attitude extérieure. Et on brise l'autre en fonction de ses gestes, en fonction de ce qu'il dit. Et donc on ne respecte plus ce qu'il y a de plus intime dans l'homme. Je crois que c'est important pour nous de comprendre cette distinction que le fanatisme ne fait plus. Dans le fanatisme religieux, il y a donc toujours un côté exclusif des autres qui ne pensent pas de la même manière, qui ne font pas les mêmes gestes que moi, qui n'ont pas les mêmes paroles que moi, qui n'ont pas la même attitude que moi. Il y a quelque chose d'exclusif, je rejette. Parce que, justement, je ne fais pas cette distinction entre ce que représente cette intériorité profonde de l'amour et l'aspect extérieur de ce que je dis, de ce qui est exprimé. Je crois que c'est la première attitude. Et ceci, c'est la mobilisation de notre irascible par l'appétit, par le sentiment religieux. Et je mobilise mon irascible et donc toute ma capacité de colère et toute ma capacité de destruction pour écarter le plus possible celui qui n'est pas en harmonie parfaite avec mon sentiment religieux. Je l'écarte le plus violemment possible. Et toute la violence provient de l'irascible. Il n'y a rien de plus violent que celui qui s'est replié sur lui-même dans ce sentiment religieux et qui n'accepte pas que les autres n'aient pas la même attitude. L'autre point de vue, peut-être plus subtil, plus délicat, mais je crois très important, c'est cette angoisse religieuse. Alors c'est le sentiment religieux qui se replie sur le concupiscible. Vous voyez bien ce que c'est que l'irascible et le concupiscible, hein, j'espère. L'irascible, c'est la passion qui tend vers le bien difficile. Et le concupiscible, c'est la passion qui tend vers le bien immédiat. Vous avez du concupiscible à l'égard du chocolat ou à l'égard du bon vin. C'est du concupiscible. Et vous avez l'irascible quand vous êtes en face de quelque chose qui est difficile à conquérir et qui demande de vous une lutte. L'irascible se développe quand vous êtes en compétition et que vous voulez à tout prix arriver le premier. et que vous voyez un autre qui risque d'être votre rival, à ce moment-là, vous faites tout ce que vous pouvez pour pouvoir l'écraser. Aimablement, poliment, mais vous faites tout ce que vous pouvez pour pouvoir l'écarter. L'irascible a ce côté terrible d'exclure. C'est le propre de la colère. C'est pour ça que la colère peut aller jusqu'à tuer, parce qu'elle exclut. Tandis que le concupiscible n'exclut pas du tout. Le concupiscible, c'est celui qui s'arrange toujours. Le tout, c'est qu'il ait son chocolat. C'est la seule chose qui l'arrive. Le reste, ça lui est bien égal. Hein. Alors, tous les compromis possibles, c'est évident. La seule chose qu'on regarde, c'est le bien immédiat. Tandis que l'irascible, c'est un homme qui ne veut pas de compromis. Il veut à tout prix la conquête. Et ça, on voit très très bien. En chacun d'entre nous, hein, il y a l'irascible qui domine ou le concupiscible. Les irascibles à droite, le concupiscible à gauche. Vous voyez, c'est comme ça, si on pouvait détecter ça en entrant ici, n'est-ce pas ? Alors on aurait deux discours pour les irascibles et pour le concupiscible, n'est-ce pas ? Alors ici, il y a deux discours, c'est très vrai, il y a deux discours de l'appétit religieux du côté de l'irascible, maintenant du côté du concupiscible, n'est-ce pas ? Alors le côté du concupiscible, c'est les scrupuleux. Alors il faut essayer de comprendre comment l'appétit religieux peut conduire aux scrupules. L'appétit religieux peut conduire au scrupule en ce sens que par l'appétit religieux, je me relie à Dieu, créateur, à Dieu qui me gouverne, à Dieu qui m'aime, à Dieu qui m'enveloppe de sa miséricorde. Je peux dire tout cela au point de vue proprement philosophique. Je suis porté par celui qui est mon créateur, in manus tuas. Et je m'aperçois que toute désobéissance provenant de l'orgueil va me mettre en rupture à l'égard de celui qui me porte. Je vais comprendre que le péché est toujours une rupture à l'égard de celui qui m'aime et qui m'a aimé le premier. Et cette rupture, elle provient de moi. C'est moi qui l'ai fait. C'est ma volonté propre qui l'a fait. Et à ce moment-là, je me coupe de ce qu'il y a d'essentiel. Ça, c'est le péché. Et il est bien évident que l'attitude religieuse me donne un sens du péché beaucoup plus profond que l'attitude purement philosophique à l'égard des autres. Autrement dit, c'est important pour le sujet que nous traitons, et c'est pour ça que je le traite un tout petit peu ici, quand il s'agit d'une morale qui est uniquement au niveau humain. La morale que nous avions, dont nous avions parlé l'année dernière, c'est-à-dire la morale que nous pouvons établir à partir de l'amour d'amitié. Une morale qui s'établit à partir de l'amour d'amitié, je ne parlerai pas de péché, je parlerai de faute. C'est pas tout à fait la même chose. Lorsqu'il s'agit d'une morale qui est au niveau purement humain et qui est basée, fondée sur l'amour d'amitié, ce qui est important, c'est de me relier aux hommes que j'ai choisis comme amis et c'est de pouvoir coopérer avec eux. Je crois que c'est à partir de là que le sentiment religieux, que le sentiment de responsabilité, que le sens de la responsabilité va naître. Parce que dès que j'aime quelqu'un, et dès que nous sommes liés dans l'amour d'amitié ensemble, il y a une certaine responsabilité. Eh bien, tout manque à l'amour d'amitié est une faute. Manque de fidélité, manque de générosité, manque de loyauté, manque de justice. Et c'est ça qui fait comprendre ce que c'est que la faute. J'ai été paresseux, alors j'ai laissé tout le travail à l'autre. Donc je n'ai pas été ce que j'aurais dû être au point de vue de l'amour d'amitié. J'aurais dû avoir le courage de pouvoir me lever suffisamment tôt pour faire le travail. Non, j'étais fatigué, j'ai dormi. Vous voyez, il y a un sentiment à ce moment-là par rapport à l'amour d'amitié vis-à-vis de l'autre. Et alors, je crois qu'on peut dire ça, c'est le sentiment de la faute. C'est un manque à l'égard de l'ami. C'est un manque de générosité. C'est un manque de fidélité. C'est un manque de justice, en définitive. Ou c'est un mensonge. Je l'ai trahi. Je n'ai pas osé d'être témoin vis-à-vis de lui. Ça, c'est tous les manques. Quand il s'agit de l'attitude religieuse, c'est tout à fait différent. À l'égard de Dieu, c'est une attitude d'orgueil qui peut s'opposer à l'attitude religieuse, qui peut s'opposer à l'adoration. C'est l'exaltation de ma propre autonomie. Je veux rester entièrement autonome et je ne veux pas me relier à celui qui est mon Créateur. Et donc je m'enferme dans ma propre autonomie. À partir de ce moment-là, je peux parler de faute, parce que c'est un manque d'amour fondamental à l'égard de celui qui est mon Dieu, à l'égard de celui dont je dépends radicalement comme Créateur. Bien, je crois qu'autour de la faute, il peut y avoir ce sentiment très fort de peur et de crainte qui va naître. Je prends ici un texte religieux qui vous montrera ça d'une façon très nette. Regardez l'Écriture qui vous montre la première faute chez Adam et Ève. Nous sommes là en face de tradition religieuse. Et je vois qu'immédiatement après la faute, il y a ce repliement d'Adam et Ève sur eux-mêmes, ils constatent qu'ils sont nus. Il faut se regarder pour constater qu'on est nus. Donc, c'est quand même le premier repliement sur soi. C'est bien évident. Et deuxièmement, ils ont peur de Dieu. Dieu qui vient le soir, ils entendent le pas de Dieu et ils se replient. Ils ont peur. Je crois que la faute engendre immédiatement la peur. La crainte. Parce qu'on sait qu'on a agi contre celui qui est notre Créateur, lui qui nous aime, lui qui nous a créés par amour. Alors il y a ce sentiment de peur et de crainte à l'égard de celui qui est tout puissant, à l'égard de celui qui peut agir sur nous comme il le veut. Ce sentiment de peur et de crainte qui implique ce repliement sur soi, qui implique cette attitude affective de repliement sur soi, peut être tout à fait légitime. Il y a une peur et une crainte à l'égard de Dieu en tant que pécheur qui est bonne. Cette crainte et cette peur sont vraies tant qu'elles sont reliées au sentiment de ma faute. J'ai péché, c'est normal que j'ai cette peur et cette crainte à l'égard de celui qui est mon Créateur, parce que j'ai désobéi. Je lui ai tourné le dos. Je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Alors à ce moment-là, il est normal qu'il y ait cette peur et cette crainte. La peur et la crainte ne sont pas mauvaises, hein. Et la peur et la crainte peuvent être au niveau passionnel, quelque chose de très bon. Et la crainte et la peur peuvent être au niveau volontaire, quelque chose de bon. Quelqu'un qui n'a plus aucune crainte et qui n'a plus aucune peur, eh bien c'est très dangereux cela. Il manque un sens religieux. Il manque un sens religieux. Parce que la crainte et la peur, c'est à l'égard justement de celui qui nous domine. Je peux très bien ne plus avoir peur et ne plus avoir aucune crainte à l'égard des hommes. Mais ne plus avoir aucune peur et aucune crainte, c'est dangereux, puisque ça peut être même vis-à-vis de Dieu. Donc ça prouverait que le sentiment religieux et que l'appétit religieux disparaît. Mais il peut se faire, et alors c'est là où je vois la naissance de ce que représente l'angoisse du scrupule. Il peut se faire que j'oublie ma faute. J'oublie ce qui a été l'occasion de la peur et du scrupule. Je l'oublie. Volontairement, du reste, hein, d'une certaine manière. Je ne veux plus le regarder. Et alors, à ce moment-là, l'angoisse et la peur peuvent, par l'imagination, prendre quelque chose d'absolu. Et j'entre dans l'angoisse. Vous savez bien comment les philosophes définissent l'angoisse. Kierkegaard, le premier qui ait parlé de l'angoisse au point de vue philosophique. Ils disent que la peur a toujours un objet. J'ai peur du gros chien. J'ai peur parce que j'ai péché. J'ai peur parce que je suis pécheur. J'ai peur parce que j'ai désobéi. Alors j'ai peur du regard de ma mère parce que j'ai désobéi. J'ai fait quelque chose qu'elle m'avait dit de ne pas faire. Alors j'ai peur. L'angoisse n'a plus d'objet. L'angoisse, c'est justement quand il y a l'oubli complet de ce qui occasionne la peur et la crainte. Et alors l'angoisse, à ce moment-là, peut prendre comme un espèce d'absolu. Ça peut prendre possession d'une manière complète de toute la conscience que j'ai. Alors je suis saisi par un sentiment de crainte. Un sentiment de crainte qui peut devenir tel qu'il me met dans l'angoisse. Et l'angoisse m'enlise. Et l'angoisse religieuse est l'angoisse la plus profonde. C'est l'angoisse à l'égard, justement, de celui que je considère comme le Tout-Puissant, qui, parce qu'il est le Tout-Puissant, peut m'anéantir. C'est en ce sens-là que l'angoisse peut conduire à un sentiment d'annihilation. C'est l'angoisse religieuse. C'est pas l'angoisse métaphysique, c'est l'angoisse religieuse qui peut conduire à un sentiment d'annihilation. Dieu peut m'annihiler. Saint Thomas a une petite phrase extraordinaire là-dessus. Il n'est pas angoissé, mais saint Thomas nous montre comment il peut y avoir cette angoisse. Il dit que on peut avoir le vertige du néant quand on considère qu'en nous, la négation est avant l'affirmation, en tant qu'on est une créature. on est créé à partir de rien, ex nihilo. Et si on est créé à partir de rien, il peut y avoir ce vertige du néant. Si j'oublie la dépendance profonde d'amour à l'égard du Créateur, et je suis retourné sur moi-même, sur une espèce d'abîme de néant antérieur à ce que je suis, et qui enveloppe ce que je suis. Le vertibile ad nihilum, c'est l'expression de saint Thomas. C'est le vertige du néant. C'est très beau, du reste, comme expression. Eh bien, je crois que le scrupule peut conduire au vertige du néant. Et quand il conduit au vertige du néant, il donne justement cette impossibilité qu'on a de pouvoir se rattraper à quelque chose, de s'accrocher à quelque chose. Il y a quelque chose de religieux qui demeure, c'est justement cette dépendance radicale à l'égard de Dieu, ça c'est fondamental, mais je ne veux plus regarder le sens de cette dépendance qui provient d'un amour, puisque c'est Dieu qui m'a créé par amour. Je ne vois plus que la dépendance, et je ne vois plus que j'ai offensé le Tout-Puissant. Et donc je m'enferme dans ce sentiment de crainte qui peut devenir une espèce d'angoisse. Eh bien, je crois que ceci, c'est la corruption de l'appétit religieux dans ce qu'il a de plus profond. Vous voyez, c'est deux corruptions de l'appétit religieux. C'est très important pour nous à saisir. Parce que c'est peut-être les deux extrêmes que nous pouvons saisir, nous en saisirons un encore quand nous verrons comment, de fait, il peut y avoir une espèce d'orgueil anti-sainteté. Et ça, ce sera la dernière conférence. Eh bien, je crois qu'avant de voir l'orgueil anti-sainteté, il y a deux autres aspects qui sont anti-religieux. Le point de vue du fanatisme et le point de vue de l'angoisse du scrupule. Ce sont deux attitudes anti-religieuses. L'orgueil sera l'attitude anti-sainteté. Ce n'est pas la même chose. Ce sera autre chose. Ce n'est pas le point de vue religieux. Et il faut bien saisir la différence qui existe. Nous le verrons à ce moment-là. Mais je crois qu'ici, nous devons souligner les deux corruptions de l'appétit religieux. Alors vous allez me dire, comment pouvons-nous lutter contre ces deux corruptions? Autrement dit, comment, à cause de ces deux corruptions possibles, devons-nous acquérir de plus en plus la vertu de religion? Parce que si j'ai vraiment la vertu de religion, la vertu de religion, elle pousse au plus intime de mon cœur pour m'empêcher de tomber dans le fanatisme et m'empêcher de tomber dans le scrupule religieux et l'angoisse religieuse. Ça, c'est vrai. Si j'ai la vertu de religion, et c'est pour ça qu'il y a une vertu de religion, s'il n'y avait pas ces deux anti-attitudes religieuses, ces deux possibilités, ces deux précipices, si vous voulez, devant lesquels je me trouve toujours. Qu'est-ce qui dit que demain je ne serai pas un fanatique religieux? Puisque on a décelé une possibilité d'être dans la secte de Moon. Alors qu'est-ce qui dit que demain on ne sera pas un fanatique religieux? On a toutes les dispositions pour ça. Après tout, n'est-ce pas, le jeune Calvin, mais il n'était pas du tout fanatique de sens là. Le jeune Luther n'était pas pris par cette espèce d'angoisse terrible du scrupule religieux. Alors comment lutter contre ça? Tout être qui a du tempérament, c'est-à-dire des passions, n'est-ce pas, risque toujours de tomber dans un fanatisme religieux et de tomber dans une attitude de scrupule. Et c'est terrible, ces deux aspects. Alors comment lutter contre? Une seule manière. L'adoration. L'acte volontaire d'adoration. Si je fais des actes volontaires d'adoration, je dépasse toujours l'immanence affective pour découvrir la réalité profonde qui est source de mon être, source de ce que je suis. Donc je dépasse ce sentiment religieux qui demeure dans l'immanence et je découvre l'autre, c'est-à-dire celui qui me dépasse complètement. Celui qui est totalement différent de moi, c'est bien, c'est vrai, mais qui est l'autre. Et je le saisis par mon intelligence. Mon intelligence est capable d'avoir un lien avec lui. Le fanatisme religieux et le scrupule religieux, me remettant dans l'immanence, me coupe complètement de Dieu. C'est pour ça que c'est anti-attitude religieuse, anti-appétit religieux. Parce qu'il me replie sur moi-même. Je me fais Dieu ou je me fais rien. Et c'est moi-même qui me détruis. Parce que dans le scrupule, je me détruis. Et je peux arriver justement à cette autodestruction qui va très loin. Il faut donc redécouvrir ce sentiment de dépendance à l'égard de celui qui est mon créateur. Découvrir ce sentiment dans une attitude volontaire d'amour. Et donc de creuser en moi de plus en plus cette attitude véritable religieuse qui est l'acte d'adoration. Et c'est par cet acte d'adoration que la vertu de religion va naître en moi. Et la vertu de religion va empêcher, endiguer l'imaginaire, qu'il s'agisse de l'imaginaire lié à l'irascible, au dit imaginaire lié au concupiscible. Cette vertu de religion va endiguer cela pour me permettre de dépasser ces deux poussées imaginaires de l'irascible et du concupiscible et rester dans la vérité. Au point de vue pratique, c'est l'adoration qui me met dans la vérité pratique. C'est l'adoration qui me fait atteindre la réalité qui me dépasse infiniment, mais la réalité qui est source de mon être. Elle me dépasse infiniment et elle est en même temps celle qui est la plus proche de moi. Et c'est pour ça que c'est dans l'acte d'adoration que je découvre à la fois cette transcendance et cette immanence du Créateur par où je suis dans la vérité. Et par où je vois qu'il y a toujours en moi cette possibilité de me dépasser, de rejoindre l'autre. Dès que je rejoins l'autre, et surtout quand cet autre, il est l'autre au sens absolu, il est celui qui me dépasse complètement, et en même temps de me découvrir dans ce qu'il y a de plus profond en moi-même. C'est la grandeur, je crois, de l'acte d'adoration. Et alors je vois très bien comment ces deux attitudes qui m'empêchent vraiment de regarder la réalité transcendante me replient sur moi et me laissent alors dans cette immanence qui risque toujours de me couper complètement de Dieu. Je m'arrête. Et si je vous rappelle que s'il y a des questions, vous ne les posez pas maintenant tout de suite, parce que sur le moment même c'est difficile, mais vous avez toujours non seulement le droit, mais le devoir de les poser et de les écrire. Alors ça permet comme ça de se dire, il y a telle ou telle chose qu'on doit essayer de creuser davantage.